VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du 4 juillet 2022, Independence Day, la fête de l'indépendance, jour férié ici aux États-Unis. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Les titres pour commencer. La CEDEAO lève les sanctions économiques contre le Mali, accord pour 2 ans de transition au Burkina Faso. 4e jour consécutif de mobilisation contre le pouvoir militaire hier au Soudan. Ici aux États-Unis, manifestation hier après la vidéo d'un homme noir criblé de balles par la police à Akron, dans l'Ohio. 1 million de musulmans, dont 850 000 de l'étranger, à la Mecque à l'occasion du Hajj, qui commence mercredi après 2 ans de restrictions drastiques en raison de la pandémie de Covid-19. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oupatine, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les dirigeants ouest-africains ont levé hier à Accra les sanctions commerciales et financières qui étouffaient depuis janvier le Mali, plongé dans une grave crise économique, politique et sécuritaire. Un accord a aussi été trouvé avec la junte au Burkina Faso. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les chefs d'État de la CEDEAO, réunis lors de ce sommet crucial dans la capitale ghanéenne, ont donc décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali. Mais les chefs d'État ont précisé que, conformément à la charte, les militaires de la junte ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, a ajouté une source de l'organisation régionale. L'adoption d'une nouvelle loi électorale ouvrant la voie à la candidature d'un militaire à l'élection présidentielle demeurait un possible point de blocage dans les négociations. Les autorités ont annoncé mercredi un calendrier électoral fixant la présidentielle à février 2024, précédé d'un référendum constitutionnel en mars 2023 et des législatives entre octobre et novembre 2023. Sur le Burkina Faso, c'est sur une période de 24 mois à compter du 1er juillet que doit s'étendre la transition et non les 36 mois adoptés par la junte. Lors de sa visite samedi à Ouagadougou, le médiateur de la CEDEAO, l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, a donc convaincu la junte au pouvoir, depuis fin janvier, de baisser la durée de la transition.
Nous reviendrons sur le sommet de la CEDEAO en seconde partie de cette édition avec Lamine Traoré à Accra et Mohamed Danioko au Mali même, pays plongé donc dans une grave crise politique et sécuritaire. Arrestation au Tchad de hauts responsables de l'État et des secteurs pétroliers et bancaires dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds à la compagnie pétrolière nationale. Ces interpellations ont eu lieu depuis une dizaine de jours au Tchad, mais c'est dimanche que le gouvernement en a fait l'annonce, Abdourahmane Dia.
Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, les malversations portent pour l'heure sur un montant de 13 milliards de francs CFA au sein de la Société des hydrocarbures du Tchad. Abderrahmane Koulamala a indiqué que c'est l'Agence nationale de sécurité ANS, les services du renseignement intérieur et extérieur, qui mènent les investigations. Parmi les personnalités arrêtées figure l'ancien tout-puissant secrétaire particulier du général Mahamat Déby, Idriss Youssouf Boy, cousin et ami d'enfance du chef de l'État, considéré jusqu'alors comme l'un de ses plus proches collaborateurs. Michel Boyam et Tahirissa Ali Suleiman ont également été interpellés dans le cadre de l'enquête. Ils ont aussitôt été limogés de leurs postes respectifs de directeur général et directeur adjoint de la Société des hydrocarbures du Tchad. Le pays est entré au début des années 2000 dans le cercle des pays africains producteurs et exportateurs de pétrole et son économie en est aujourd'hui très dépendante. Il demeure un producteur modeste avec 47 millions de barils en 2021, selon l'Observatoire tchadien des finances publiques.
Au Soudan, des centaines de protestataires ont organisé des sit-ins dans différents endroits de Khartoum et des banlieues de la capitale pour le 4e jour consécutif. Ils réclament le départ du pouvoir instauré en octobre par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le point avec Nanit Talani.
Si depuis le putsch du général Burhan, les Soudanais pro-démocratie descendent chaque semaine dans la rue, le mouvement qui s'était essoufflé depuis des mois a semblé repartir jeudi. Ce jour-là, anniversaire symbolique de la révolution qui a renversé l'ex-président Omar el-Béchir, des dizaines de milliers de Soudanais ont manifesté. Face à eux, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles. Bilan, 9 manifestants tués, des centaines de blessés et autant d'arrestations selon un syndicat de médecins. Après cette journée, la plus sanglante depuis le début de l'année, les manifestants n'ont plus quitté la rue. Nous continuerons à lutter contre les poutistes jusqu'à la formation d'un gouvernement composé uniquement de civils, assure un des manifestants dans le centre de Khartoum. Ils étaient rassemblés hier encore devant le quartier général de l'armée où étaient déployés des blindés des troupes paramilitaires, des forces de soutien rapide.
La République centrafricaine, pays en guerre civile depuis 9 ans, a lancé officiellement dimanche le chantier de sa propre crypto-monnaie, le Sango, et du futur premier crypto-hub africain à fiscalité nulle, Nathalie Barge.
Le président Faustin Archange Touadéra en a fait l'annonce lors d'un événement online pour lancer un nouveau système numérique alimenté par la technologie blockchain, 2 mois après avoir fait de son pays le 2e au monde, après le Salvador, à adopter le bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légaliser l'usage des crypto-monnaies. Aucun détail concret n'a été livré sur les modalités et le calendrier de la création de ce Sango Coin et d'une Crypto Island, plateforme permettant à cette devise virtuelle de devenir le catalyseur de la tokenisation des vastes ressources naturelles de la Centrafrique. Cette initiative Sango, du nom de la langue officielle aux côtés du français, survient en pleine crise des crypto-monnaies dans le monde où le cours du bitcoin est en chute libre et où de nombreuses plateformes crypto risquent la faillite.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée russe continuait ce lundi de pilonner l'est de l'Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l'ensemble du Donbass après sa prise de Lysychansk. L'armée ukrainienne, reconnaissant la supériorité des troupes russes sur le terrain, a confirmé hier soir son retrait de cette ville stratégique de l'Est, dont la prise avait été revendiquée quelques heures plus tôt par Moscou, qui dit contrôler toute la région de Lugansk. Ici aux États-Unis, le maire et la police de la ville d'Akron dans l'Ohio ont lancé hier un appel au calme après la diffusion d'une vidéo montrant un homme noir tué par la police et qui a reçu 60 balles selon son avocat. Le point avec Eric Manirakiza.
Jalen Walker, 25 ans, a été tué en début de semaine dernière alors qu'il fuyait les policiers à pied après une poursuite en voiture. C'était suite à une tentative d'interpellation pour infraction routière. Une vidéo très violente diffusée dimanche par la police montre le jeune homme criblé de balles. Depuis, à Akron, une ville proche de Cleveland, des manifestants descendent quotidiennement dans les rues pour réclamer justice pour Jalen Walker. Beaucoup voudront exprimer leur grief en public et je soutiens pleinement le droit de nos résidents à se réunir pacifiquement, a déclaré le maire de la ville, Dan Horrigan, assurant avoir le cœur brisé. Mais j'espère que la population sera d'abord sur le fait que la violence et la destruction ne sont pas la solution, a-t-il plaidé lors d'une conférence de presse. Le chef de la police, Steve Maylett, a indiqué qu'un rapport du médecin légiste faisait état de 60 blessures sur le corps de Jalen Walker. Son avocat, Bobby DiCello, assure que l'homme a été touché par 60 balles. Les policiers impliqués dans sa mort ont été suspendus administrativement en attendant la fin de l'enquête judiciaire. Dans un tweet dimanche, la superstar du basketball, LeBron James, originaire d'Akron, a dit prier pour sa ville.
L'auteur présumé de la fusillade dans un centre commercial de Copenhague a des antécédents psychiatriques, a annoncé la police au lendemain de la tuerie, affirmant que rien n'indique à ce stade un acte terroriste. En Arabie Saoudite, les rues de la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, grouillent de pèlerins venus du monde entier pour accomplir le Hajj qui commence mercredi après 2 ans de restrictions drastiques en raison de la pandémie de Covid-19. 1 million de musulmans doivent effectuer le grand pèlerinage annuel, dont 850 000 de l'étranger pour la première fois depuis 2019. La Minute Éco, Jean-Roger Dion.
Le Ghana sollicite le soutien du Fonds monétaire international à l'heure où le pays traverse une crise économique aggravée par l'invasion russe en Ukraine qui a fait exploser les prix à la pompe. Le président Nana Akufo-Addo cherche urgemment à trouver de nouvelles sources de revenus pour combler le poids de la dette de son pays, qui représente près de 80% du PIB. Une délégation du FMI est attendue ce lundi en Tunisie pour entamer des négociations sur un programme d'aide aux pays en crise, a indiqué vendredi un responsable de la Banque centrale tunisienne. L'équipe du Fonds monétaire international va discuter avec les autorités tunisiennes du plan proposé en ce sens par le gouvernement, dirigé par la première ministre Najla Bouden. Selon des experts, le montant du prêt sollicité par Tunis se situe autour de 2 milliards d'euros. L'Éthiopie a perdu sa participation dans le port de Berbera pour le non-versement de sa contribution financière à la construction de cette infrastructure portuaire, a annoncé le ministre des Finances du Somaliland, Saad Ali Shire. Pays enclavé, l'Éthiopie cherchait à faire de Berbera une alternative au port d'Assab en Érythrée, et surtout à ceux de Djibouti, dont il reste fortement dépendant pour son commerce international.
Merci Jean-Roger. À présent, les sports avec Élisée Oumpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire décalée à janvier-février 2024.
Oui, c'est le président de l'institution, Patrice Moussépé, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Rabat au Maroc. Le Sud-Africain a mis en avant le climat pour justifier ce report à l'issue d'une réunion du comité exécutif organisée en marge de la CAN féminine qui se déroule actuellement dans le royaume chérifien. Comme en 2021 au Cameroun, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tiendra également en janvier-février.
Pendant ce temps, la CAN féminine se poursuit avec la suite de la première journée.
Un début raté pour le Cameroun, finaliste de la dernière édition accrochée par la Zambie 0-0. C'est la Tunisie qui prend seule la tête de ce groupe B après avoir largement dominé le Togo 4-1. Dans la poule A, le Sénégal partage la première place avec le Maroc suite à son succès 2-0 face à l'Ouganda. Le pays hôte, en ouverture, avait fait l'essentiel 1-0 devant le Burkina Faso. À force de ne pas être ridicule devant le pays organisateur, les étalons d'âme ont manqué de réalisme, reconnaît le sélectionneur Pascal Sawadogo au micro de notre correspondant Amin Birouk.
On a eu pas mal d'occasions, mais le dernier geste, la dernière passe. Mais je pense que quand même, ça peut se corriger. On va essayer de regarder, puis faire des séances de correction. Parce que quoi qu'on dise, il y a encore 2 matchs. Et j'espère que si on maintient le cap, bon, c'est le pays organisateur, hein. Donc, nous, on voulait juste pour ne pas être trop ridicule. Peut-être offrir un meilleur spectacle. Et je pense qu'on a pu le faire. Ça allait être intéressant si on marquait peut-être un autre but. Bon, mais on va travailler l'efficacité. Parce qu'on a eu pas mal d'occasions, mais avec la précipitation, à force de vouloir bien faire, bon, on finit par jeter la balle. Mais ça peut se coopérer avec le Sénégal. On peut faire un meilleur match.
La réaction est donc attendue demain mardi face au Sénégal. Mais en attendant ce lundi, entrée en liste des équipes du groupe C et au programme, un alléchant Nigeria, Afrique du Sud et Burundi-Botswana.
Et puis Élisée, on termine avec du basketball. On connaît tous les qualifiés pour le prochain tour des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde.
Tout à fait. Et il y restait deux places à prendre. L'une est allée au Cameroun, malgré sa défaite 67-56 contre le Soudan du Sud, et l'autre à la Guinée, vaincue 65-85 par l'Angola. Ces deux équipes rejoignent ainsi la Tunisie, l'Égypte, le Soudan du Sud, la RDC, l'Angola, l'Ouganda, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cap Vert et le Sénégal. Et puis deux brèves pour finir. Coton Sport est sacré champion du Cameroun pour la 17e fois de son histoire. Le club de Garoua conserve donc son titre après avoir battu en finale et d'Insport. Enfin, au Mali, c'est le Djoliba AC qui remporte le championnat. Le club de Babako s'offre ainsi le doublé cette saison Coupe Championnat.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sevilla, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont donc penchés ce week-end à Accra sur les transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. D'importantes décisions ont été prises, notamment sur les durées des transitions au Burkina et au Mali, fixées désormais à 24 mois. La Guinée devra présenter un chronogramme acceptable d'ici fin juillet, sous peine de sanctions. Un nouveau président en exercice de la CEDEAO a été désigné également, un nouveau président de la Commission. Autant de décisions, nous dit Dakar notre correspondant Lamine Traoré.
Près d'une dizaine de chefs d'État étaient à Accra pour ce sommet à l'hôtel Kempinski, près du Jubilee House, le palais présidentiel du Ghana. Les chefs d'État ont décidé de lever les sanctions économiques et financières qui pesaient sur le Mali depuis le 9 janvier. Ils ont estimé que le pays a fait d'énormes efforts dans les négociations. La transition est fixée à 2 ans, également 24 mois de transition pour le Burkina Faso, contrairement aux 36 que le pays avait proposé à la CEDEAO. Une médiation réussie, selon la CEDEAO, de Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger. Jean-Claude Kassibrou, président sortant de la commission de la CEDEAO.
Le président Issoufou a indiqué au sommet qu'après discussion, les autorités ont revu le calendrier et donc ont proposé une transition de 24 mois à compter du 1er juillet 2022. Ce qui veut dire que la transition devrait prendre fin en juillet 2024.
Pour la transition en Guinée, les choses n'avancent pas. La CEDEAO menace de sanctionner ces pays s'ils ne réduisent pas sa durée de transition de 36 mois. Un nouveau médiateur, Yayi Boni, l'ancien président du Bénin, a été désigné. Jean-Claude Kassibrou.
Vu que ce point a été évoqué à plusieurs reprises lors de différents sommets, le sommet a souhaité que une décision puisse être prise sur cette question avec le nouveau médiateur d'ici la fin du mois de juillet 2022. Au-delà de cette date, des sanctions économiques et financières seront prises, en plus des sanctions individuelles qui seraient donc étendues à d'autres acteurs, puisqu'il y a des sanctions contre les membres du CNRD, mais ces sanctions individuelles.
L'autre enjeu de ces sommets, c'était aussi le renouvellement des instances décisionnelles de la CEDEAO. Pour la première fois, un pays lusophone prend la tête de l'organisation. Le président de la Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, est désormais le président en exercice de la CEDEAO.
C'est historique. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs. Guinée et Cap-Vert, c'est la première fois qu'un pays lusophone porte la présidence tournante. Et ça montre la solidarité de tous les pays, parce que c'est un soutien unanime de tous les chefs d'État de la CEDEAO qui a porté ça à l'ère plus jeune. Chef d'État de la sous-région.
Enfin, Omar Aliou Touré, diplomate gambien de 56 ans, a été nommé président de la commission de la CEDEAO. Justement, désormais la CEDEAO compte 8 commissions au lieu de 15. Cela en vue de réduire les dépenses de l'organisation. Lamine Traoré, Accra, VOA Afrique.
La levée des sanctions qui pesaient sur le Mali depuis bientôt 7 mois est une bouffée d'oxygène pour le peuple malien à quelques jours de la Tabaski, la fête du mouton, selon notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko.
Cette décision était très attendue au Mali. Elle est finalement venue. Les sanctions économiques et financières et la fermeture des frontières sont levées avec effet immédiat. Dans la foulée, la compagnie aérienne de la Côte d'Ivoire, Air Ivoire, a annoncé la reprise de ses vols à partir de demain mardi 5 juillet. Les propos rassurants tenus par le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, lors de sa dernière visite à Bamako, l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi électorale, la nomination des membres chargés de la révision de la Constitution et enfin la proposition d'un chronogramme détaillé sont autant d'avancées du côté malien qui ont convaincu le chef d'État de la CEDEAO de lever les sanctions, même si les sanctions individuelles et la suspension du Mali des instances de l'institution demeurent. Selon les informations recueillies, la CEDEAO, conformément à la charte de la transition malienne, s'oppose aux candidatures civiles et militaires des autorités de la transition. Une réserve qui fait beaucoup réagir sur la toile malienne. S'ils sont nombreux à estimer que la CEDEAO n'a pas le droit de dicter aux Maliens le choix de ses dirigeants, beaucoup pensent que les autorités doivent se conformer à la charte qu'elles se sont elles-mêmes données. Sur le reste, les spéculations vont bon train en attendant la publication du communiqué final du sommet qui est toujours attendu. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'ouverture d'une enquête contre le groupe Castel à Paris fait réagir à Bangui. Le géant français des boissons est accusé de complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à travers sa filiale SUCAF en Centrafrique. Cette décision du parquet de Paris est saluée par les organisations des victimes et de défense des droits de l'homme. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
En août 2021, l'ONG de Saint-Louis a dénoncé dans un rapport le soutien du groupe Castel à la rébellion de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, accusée d'exaction. Selon l'ONG américaine, la SUCAF RCA, filiale du groupe Castel, avait négocié un arrangement sécuritaire avec l'UPC pour la sécurisation de son usine de fabrication de sucre et pour tenter de protéger le monopole de la société. En échange de la sécurisation du site, la SUCAF RCA a mis en place un système sophistiqué et informelle pour financer les milices d'armée par des paiements directs et indirects en espèces, ainsi que par un soutien en nature sous forme d'entretien des véhicules et fournitures de carburant. Un an après cette dénonciation, le parquet de Paris a annoncé le 29 juin dernier l'ouverture d'une enquête pour complicité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité visant le groupe Castel. En République centrafricaine, cette annonce est accueillie avec satisfaction par les victimes des crises militaro-politiques. Jacques Muller-Biro, secrétaire général de l'association des victimes.
Présentement, si la justice française renouvelle cette enquête, ça sera encore un atout pour les victimes de ces événements qui se sont déroulés à Bambari et pour que la lumière soit faite sur cette situation.
Pour la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, les faits reprochés au groupe Castel sont suffisamment graves. Son président, Joseph Bindoumi.
Nous pensons qu'il s'agit de faits suffisamment graves parce que les sociétés qui travaillent à la République centrafricaine ne devraient pas être les sociétés qui alimentent la crise centrafricaine. Et là, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme attend donc que l'État centrafricain réagisse immédiatement, qu'on nous dise ce qu'on en pense. Et puis nous voulons aussi savoir quelle est la position du groupe Castel dans cette affaire, parce qu'il s'agit d'une affaire suffisamment grave.
Joseph Bindunga, président du parti MDREC et député de l'opposition, souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire.
C'est une triste réalité. Comment se fait-il que toutes les entreprises de l'arrière-pays n'ont pas fonctionné et que SUCAF seul a tenu le coup? Quel accord y a-t-il eu entre les rebelles et SUCAF pour laisser SUCAF travailler et détruire toutes les unités ainsi que l'administration? Je suis sûr que la justice française fera son travail.
Dans les rues de Bangui, les centrafricains ne cachent pas leur indignation. Nombreux sont ceux qui souhaitent qu'une enquête soit également ouverte par la justice centrafricaine.
Selon moi, il n'y a que le parquet de Bangui qui peut ouvrir une enquête qui peut aboutir à la réparation.
N'est-ce pas encore une série de théâtres corrompus pour essayer de convaincre la population de la réalité? Pourquoi la RCA, le pays concerné, n'a-t-il pas son mot à dire?
L'enquête qui a été ouverte depuis Paris n'a pas lieu d'être, quoi. Pourquoi? Parce que les faits se sont produits sur le territoire centrafricain.
De leur côté, les autorités centrafricaines n'ont pas encore réagi à ce nouveau rebondissement. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Pour revenir sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, elle aura donc lieu en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. L'annonce en a été faite par le président de la CAF, Patrice Motsepe, à Rabat au Maroc. Cette 34e édition était prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. L'instance africaine du ballon rond évoque les fortes pluies à cette période en Côte d'Ivoire pour justifier ce report. Joint à Abidjan par Yacouba Ouédraogo, le chroniqueur sportif Adoumel. Il estime que ce report était prévisible.
Ce report était prévisible. Nous étions à la CAN au Cameroun en 2021, mais qui s'est joué en 2022. Déjà, au sortir des réunions de la CAF, le sujet était en l'air par rapport au report. Personnellement, je ne suis nullement surpris. C'était prévisible, comme on peut le dire, parce que à cette période, il pleut beaucoup et il y a des dégâts. Je ne pense pas qu'une compétition d'envergure de la CAN puisse se jouer à partir du mois de juin. Je vous assure qu'une seule journée de pluie à Abidjan peut gâcher totalement la fête.
L'argument de la météo est connu. Au Cameroun, c'était pareil. C'était prévu en juin, finalement. Ça a été joué en janvier. Cet argument est connu. On se demande pourquoi la CAF avait donné cette période de juin-juillet et ensuite revenu là-dessus.
Ce sont des gens qui sont malins, comme on le dit. De toute façon, les gens ont toutes les données avant d'avancer les dates. C'est-à-dire qu'ils jouent quelque peu sur les esprits. Moi, je pense plutôt que c'est une manière de bousculer les organisateurs à être prêts au niveau des stades, au niveau des cahiers de charges. Je pense que le président de la République était déjà informé. Tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation sont informés. Mais officiellement, on ne peut pas dévoiler pour ne pas décourager quelque peu les gens. Et puis, il faut reconnaître une chose. C'est qu'au moment où on prenait la décision de faire jouer en juin-juillet, il y avait des exigences de l'UEFA avec les clubs de l'UEFA qui menaçaient de la libération de leurs joueurs si la CAN ne se joue pas en juin-juillet, ce qui les arrange. En janvier-février, ça ne les arrangeait pas. Il fallait faire face à cette menace. La FIFA n'a pas pu, à l'époque, gérer ce problème, donc les dates étaient maintenues.
Il y a effectivement cet argument des clubs européens, surtout, qui ne veulent pas libérer les joueurs au mois de janvier-février parce que les championnats sont en cours là-bas et donc, ce problème-là va ressurgir.
Oui, le problème va ressurgir, mais c'est une compétition majeure qui est inscrite, je dirais, au calendrier de la FIFA. Même en Europe, le championnat, par exemple, de Russie, il commence tôt pour se terminer vite, alors que au moment où il se termine, des mois en avance, les autres pays européens sont en train de jouer leur compétition. Vous savez, donc, les méthodes ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. La preuve, c'est qu'au Qatar, la Coupe du Monde va se jouer en novembre. On va me dire que c'est la compétition de la FIFA, donc c'est la FIFA. Tout le monde s'aligne sur les dates de la FIFA, donc qui est la maîtresse des compétitions, il est vrai, mais il faut que les compétitions soient stratifiées, je veux dire, soient programmées en fonction de la météo d'un pays.
On pense tout de suite à la répercussion sur la CAN 2025 prévue en principe en Guinée. Il faut s'attendre aussi à un report.
Oui, il faut s'attendre à un report parce que en Guinée, encore c'est pire, pendant deux semaines, il pleut sans cesse. Il y a des périodes comme ça. Les mois de juin et de juillet sont des mois de saison des pluies en Guinée. En Afrique de l'Ouest, on ne peut pas faire une compétition en juin et juillet, pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et bon, c'est là valable aussi, je peux le dire, en Afrique centrale, où il y a la forêt qui est dense et où les pluies sont très fortes. Donc, les compétitions doivent se jouer en fonction de la météo d'un pays.
Joint à Abidjan par Yacouba Ouédraogo, c'était le chroniqueur sportif Adoumel.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia au micro. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.